Donc Genèse chapitre 1, verset 1, on avait commencé à lire le texte la semaine dernière, alors on va reprendre la lecture. On ne va pas être très ambitieux cette semaine, on va juste rajouter un verset. Donc si l'un d'entre nous aime bien faire la lecture à haute voix, c'est l'occasion de lire les 27 premiers versets du livre de la Genèse. Est-ce qu'il y a envie de faire la lecture ?
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose. Et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit enfin la voûte qui sépara les eaux d'en bas et celle d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse. Et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux, mer, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il y ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. Dieu dit enfin que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants, et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut le sept, la cinquième journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, « Faisons les êtres humains qui soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes.
Merci beaucoup Guy pour la lecture. Alors, la semaine dernière, on s'était attardé un petit peu sur cette question de la création. Le livre de la Genèse et le livre du commencement. Et on avait vu, on avait parlé de Monsieur Georges Lemaître qui avait mis en place la théorie du Big Bang de son temps. Et le témoignage qu'il avait rendu pour lui, il voyait dans la Bible une source d'inspiration, un message spirituel, et que la science d'un côté tout ce qui dépend de la religion de l'autre sont des choses qui sont différentes. Et pour lui, la science se propose des scénarios réalistes, des lois, des équations qui permettent de décrire de façon cohérente l'ensemble des observations. Donc on fait des observations, on essaye de mettre des lois en place, de découvrir les lois qui existent déjà et faire des extrapolations sur le passé et sur l'avenir. Et donc le 20e siècle a vu deux théories par rapport à la création, l'origine de l'univers qui étaient un petit peu contradictoires. Une qui disait qu'il y avait un univers qui était en expansion, c'était le Big Bang, et avant cela, il y avait un univers qui était statique. C'était la façon dont voyait Einstein les choses. Alors, nous sommes encouragés à prendre du recul par rapport à tout cela. Ce sont des choses qui sont très compliquées, très difficiles à appréhender. On veut bien faire confiance à tous ces grands savants, mais la Bible nous parle de la foi. On a vu Jésus qui multipliait les pains pour 5000 hommes à partir de rien. À partir de pain, il les a multipliés. Il n'y avait pas de fabrique, il n'y avait pas il a défié cette loi qui dit que que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien non. Il est ressuscité des morts également. Il s'est assis à la droite de Dieu, les personnes l'ont vu monter comme ça dans le ciel, défiant toutes les lois de la gravité. Alors, on avait conclu en disant Dieu est grand, ne laissons pas les autres penser à notre place, nous avons aussi nous autres une intelligence, on peut réfléchir, on peut penser à ce qui nous entoure, on peut observer la création, on peut voir combien Dieu est grand. Et si Dieu a fait en une semaine tout ce qui nous entoure, s'il est puissant et grand pour faire tout ça, il est puissant et grand également pour prendre soin de nous dans nos besoins quotidiens. Et on avait terminé en chantant le chant « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Aujourd'hui, nous allons voir autre chose, un autre volet, qu'on apprend dans les écoles, vous savez, la théorie de l'évolution avec M. Charles Darwin, qui était un homme très respectable par ailleurs, et qui a mis en place lui aussi une théorie comme quoi les espèces, l'homme et tous les êtres vivants viendraient d'un processus d'évolution, et dont un des moteurs serait la sélection naturelle. Alors c'est ce qu'on enseigne encore dans les écoles, hein. Et c'est vrai que c'est encore bien davantage en opposition par rapport au Big Bang, puisque nous serions nous-mêmes le fruit du hasard, et tout ce qui serait, tout ce qui compterait finalement, c'est la lutte pour la survie. Alors, on n'est pas là pour parler de science, mais je voudrais quand même vous donner trois arguments en faveur de la création par rapport au texte que nous avons. On trouve le premier au verset 26, on vient de lire ces deux derniers versets. L'homme dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et des eaux, etc. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Et c'est vrai que les dieux, les hommes ont une facilité qu'on ne trouve pas chez les autres animaux, c'est que l'homme est aussi un créateur. Ce sera mon premier argument pour nous ce matin. L'homme est un créateur. On donne des crayons à une école maternelle et ils ont la couleur et des peintures. Et bien voilà, ils vont chacun faire des dessins qui seront tous différents les uns des autres. Tous représenteront quelque chose, tous existeront ces dessins alors qu'avant il n'y avait rien. Tous à partir des mêmes matériaux. Alors l'homme, il sait, comme ça, à son niveau, créer des choses, et on a créé toutes sortes de choses qui nous entourent. On est entouré d'objets qui ont été créés par les hommes. On ne crée pas à partir de rien, nous autres. Dieu crée à partir de rien. Mais c'est une des caractéristiques que l'homme fait à l'image de Dieu. Dieu est créateur, et l'homme aussi est créateur. Et donc on peut voir, à partir de ça, que la Bible dit quelque chose qui est quand même vrai. Il y a une autre chose également, c'est que la théorie de l'évolution vieillit très mal. Hein? Vous avez peut-être, il y a deux semaines, vous avez peut-être regardé l'émission Thalassa, où vous montrez le grand poisson, là, le sélacanthe, là, un poisson préhistorique, et on l'a vu bien vivant, et pas évolué du tout. Il est le même que ce qu'il était quand il était dans les fossiles. Et c'est pourtant un des chaînons manquants de notre histoire, selon la théorie de l'évolution. Il était censé avoir disparu depuis 100 millions d'années, et le voilà, un jour, il y a quand même presque un siècle, je crois, 1950 ou 30, quelque chose comme ça, hop, on en a pêché un de la mer, et tout le monde a été surpris. Alors, il faut quand même... je vous l'avais dit la dernière fois, ne pas hésiter à réfléchir et à observer par soi-même et à se faire soi-même, on est doué aussi d'intelligence, ne pas toujours laisser les autres réfléchir à notre place. Quand j'étais à l'église de Toulouse, on avait un frère qui s'appelait Eric Sabot qui travaillait dans tout ce qui était le garde-pêche, etc. Il avait étudié tous les petits insectes qui sont dans les marais, là, tout ça. Et ce sont des insectes qui se reproduisent très très rapidement. Les générations durent des fois quelques semaines, des fois encore moins. Et il a trouvé des vieux livres qui décrivaient ces insectes. Et c'était exactement les mêmes. Des vieux livres qui dataient de quelques centaines d'années. Et c'était exactement les mêmes petits moustiques, les mêmes petites bestioles. Et pourtant, il y avait des milliers de générations qui s'étaient écoulées. Puisque nous avons une génération d'une vingtaine d'années, là c'est quelques semaines, et dans l'espace de temps d'un siècle, il se passe des milliers de générations, et lui il avait constaté, ben non, il n'y a pas d'évolution du tout là-dedans, ça aurait dû évoluer un petit peu quand même, parce que les choses ont changé depuis. Alors, observez les choses, on peut s'aider également de la parole de Dieu, quand on voit un livre comme le livre de Job, il décrit les problèmes, qui sont toujours des problèmes d'actualité. On croirait que ce livre a été écrit très peu de temps, parce qu'il décrit tellement bien les problèmes qui sont les nôtres, dans la souffrance, etc. Et on voit à travers ce livre que non, vraiment, l'homme n'a pas du tout évolué dans ses difficultés, dans son approche de la vie, etc. C'est toujours le même problème. Par rapport à notre bon sens, j'aurais une autre anecdote à vous confier. L'autre fois, j'écoutais la radio qui expliquait que voilà, on n'avait pas de poils, on n'était pas des animaux velus comme les autres animaux, nous autres, parce que il y avait des poux et les femmes avaient remarqué que les poux c'était pas bien et qu'elles choisissaient des hommes qui n'avaient pas de poils, parce que comme ça ils n'avaient pas de poux. Et petit à petit, comme ça, les hommes ont perdu les poils qui les couvraient initialement. Alors on se demande pourquoi on a des cheveux, hein. On se demande pourquoi on a des cheveux. Pourquoi les cheveux, eux, ils sont restés. Enfin bon, ça fait sourire, mais il y a des gens qui croient ça très sérieusement. On peut faire appel à notre bon sens, hein. La théorie de l'évolution pose plus de problèmes que ce qu'elle n'en résout, et ce sont les biologistes qui les premiers avaient Darwin était un biologiste, qui eux maintenant sont les premiers à remettre en cause cette théorie. Il y a un courant qui s'appelle l'intelligent design aux États-Unis, et des biologistes qui se rendent compte que la création est tellement sophistiquée, tellement compliquée, que ça ne peut absolument pas être le fruit du hasard. Et cette théorie de l'évolution pose en fait beaucoup plus de problèmes que ce qu'elle n'en résout. Et ce n'est pas forcément un bon modèle. Mais bon. Soyez libre, sentez-vous libre de faire des observations, et je vous encourage vous-même à vous faire votre opinion. Ce sera mon deuxième argument. Une théorie qui vieillit mal. On peut également regarder les fruits de chaque approche. Quels ont été les fruits de la théorie de l'évolution? Ah ben, on peut réciter le racisme, hein. Vous savez, à une époque, c'était la mode de mesurer l'angle facial, là, comme ça. Et suivant la valeur de l'angle, on disait, ah ben, voilà une personne plus ou moins intelligente, parce qu'elle est plus ou moins évoluée. Plus c'est comme ça, plus le cerveau est en haut, comme ça, plus c'est intelligent. Et bien sûr, la personne qui a pondu cette théorie avait lui-même le cerveau bien comme ça, hein. On s'en doutait. Alors ça a justifié l'esclavage moderne de notre fin au 18e ou 19e siècle. Ce n'est également une théorie qui sert de support à l'eugénisme, et c'est lié d'améliorer la race humaine en faisant des tripatouillages, en faisant des sélections, en stérilisant, ben voilà, on va stériliser toutes les personnes qui sont alcooliques, comme ça ils vont plus se reproduire, il n'y aura plus d'alcooliques. Et des choses comme ça qui sont complètement contraires au plan de Dieu. On pourrait citer le conflit des générations également. Ah ben, quand on est jeune, on est plus intelligent que les personnes vieilles. On évolue, c'est sûr, quand on est jeune, on est mieux. Et on va certainement mieux réussir que ceux qui nous ont précédés. Moi, je croyais ça dur comme fer quand j'étais jeune. J'allais faire mieux que mes parents, c'était certain. Je ne pouvais pas faire moins mal. J'ai été déçu par moi-même. On pourrait citer également l'élimination des plus faibles, hein, le maillon faible, on s'en débarrasse. C'est une pensée qui nous entoure. Hein. Dans les jeux télévisés, j'en avais déjà parlé une fois. Je ne veux pas y revenir. Est-ce qu'on peut, si on lui oppose les fruits de la création? Alors là, la création, vous le savez, ça provoque l'émerveillement. On est émerveillé devant tout ce que Dieu fait. Et c'est vrai qu'on peut croire à l'évolution et être émerveillé aussi, mais je crois que l'émerveillement est plus grand, plus profond, quand on voit derrière tout cela la main d'un Dieu créateur. L'émerveillement, l'humilité également, comment on se sent tout petit devant cette magnifique créature, création qui nous entoure. Le respect des autres créations, on est créé nous-mêmes. Et il y a d'autres choses que Dieu a créées, et on doit bien évidemment les respecter parce que c'est Dieu qui les a créées, comme moi. Et ça amène la fraternité entre les peuples. Nous sommes tous issus d'un seul, et donc nous sommes tous frères. Il n'y a pas de différence entre les hommes aux yeux de Dieu. Et également, accompagné de ça, il y a la considération du plus faible. Telle personne est plus faible que moi, mais Dieu l'a créée et je ne dois pas m'en débarrasser parce qu'elle me gêne. Au contraire, je me dois de l'aimer, de la respecter et de l'aider si je peux le faire, puisque Dieu m'a donné des capacités qui lui font défaut à elle, et donc on va s'échanger les choses comme ça. Donc, c'est mon troisième argument. Quand on compare les fruits d'un système et les fruits de l'autre, ce que ça donne. Alors, je vous laisse ces quelques considérations ce matin pour que vous fassiez votre propre opinion. Vous pouvez, je vous laisse libre de peut-être d'autres choses qui vous viennent à l'esprit ou une autre opinion sur le sujet. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est clair, l'évolution ne fait pas partie du vocabulaire biblique. Évoluer, c'est un mot qui n'est pas dans nos Bibles. Hein. Le succès de l'évolution provient de quoi? Ben parce que l'avantage, c'est qu'on a un monde sans Dieu. Enfin, débarrassé de Dieu, débarrassé de quelqu'un à qui on aurait des comptes à rendre, un créateur au-dessus de nous. Et donc, c'est ce qui est bien pratique dans cette théorie. Quel était, en fait, le message de Jésus? Alors, quelqu'un peut peut-être lire l'évangile de Marc, au chapitre 1, au verset 14 à 19. Qu'est-ce qui est venu Jésus quand il est venu sur la terre? Il est venu dire quoi? Il est venu annoncer quoi? Qu'est-ce qui a trouvé ce passage? Qu'on a trouvé. Marc chapitre 1, verset 14. Là, Jean.
Oui. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu.
Allez, vas-y. Oui, le suivant, pardon, 14, 15.
Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Alors là, on a un petit mot ici. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Évoluer ou se repentir. C'était le thème un petit peu du message de ce matin. Évoluer, évolution ou repentance. On voit que la repentance fait partie intégralement du message de l'évangile, du prêcher la bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y avait un petit mot. Repentez-vous. Alors, Dieu ne veut pas nous voir évoluer d'une façon ou d'une autre, mais quand on s'est éloigné de lui, il nous dit, faites demi-tour, revenez, revenez à moi, revenez en arrière, là où nous, on voudrait continuer d'essayer de cheminer par nos propres forces sans le secours de Dieu. Qu'est-ce qui s'accompagne de la repentance? On le voit dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je vous le lis. La repentance, la conversion. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a placé sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas l'évolution de quelque chose d'avant qui va évoluer en quelque chose petit à petit. Non, c'est quelque chose de nouveau que le Seigneur se propose de faire, de revenir à lui pour que lui-même fasse de nous une nouvelle création, quelque chose de neuf. Quelque chose de différent qui n'existait pas avant. Parce que c'est un Dieu créateur et il est capable de nous recréer, en quelque sorte, non pas de nous faire évoluer, mais de nous recréer. Alors en conclusion, nous débarrasser, je trouve, de cette pensée de l'évolution, c'est quand même... une vraie lutte, c'est comme parce qu'on a grandi dedans, on nous a enseigné ça à l'école, et c'est ancré dans notre société, c'est ancré dans nous-mêmes, et c'est assez difficile que de déconstruire tout cela pour envisager quelque chose d'autre. Le problème et l'origine de l'évolution, il ne faut pas l'avoir en Darwin, ce n'était pas tellement le problème de cet homme. Il ne faut pas le montrer du doigt. C'est plutôt la volonté de l'homme de vivre sans Dieu qui est à travers tout ça. Je peux avancer par mes propres efforts. Je n'ai pas de compte à rendre à personne, moi-même, par mes propres forces. Je vais avancer, je vais progresser, je vais évoluer. Et Dieu n'attend pas notre évolution. Il attend notre repentance. Il attend un retour. Revenir à lui. Monsieur Darwin a fait le tour du monde à la recherche de ses chaînons manquants. Il voulait trouver la preuve que sa théorie était juste. Et il n'a pas trouvé de preuve. Il a quand même persisté. Ça aurait été certainement bien différent s'il avait dit à la fin de sa vie, écoutez mes amis, je ne suis pas du tout sûr de moi, je n'ai pas trouvé les preuves de ce que j'avais avancé. Ça aurait été une attitude humble qui corresponde à la position d'un homme dans toute sa faiblesse. C'est dommage. Alors, nous, on n'est pas dans des théories, on est dans des choses de la vie, de tous les jours. On a des décisions à prendre, d'aller dans une direction, d'aller dans l'autre. On est confronté à faire des choix. Et quand on se trompe, quand on va dans une mauvaise direction, c'est super si on arrive à dire « Non, là, j'ai fait fausse route. Il faut que je me repente. Il faut que je fasse demi-tour. » Revenir à Dieu. Revenir à Dieu qui, lui, a toutes les ressources pour faire un nouveau départ, faire quelque chose de nouveau. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et chaque jour, nous savons que Dieu renouvelle ses bontés. Et pour son enfant, lorsqu'on est adopté dans la famille de Dieu, l'Écriture dit que nous sommes de nouvelles créations, quelque chose de nouveau. Alors, pour terminer, je vous proposerai de chanter un chant. C'est vers toi que je me tourne. Le 105. Et je vais prier avant de chanter. Merci notre Père Céleste pour l'occasion que nous avons eue d'ouvrir encore ta parole ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas grand-chose. Toi, tu es un grand Dieu, tu nous as donné ta parole pour nous aider, pour nous ramener et nous garder proches de toi. Merci Seigneur pour Jésus-Christ que tu as envoyé. Merci pour les miracles qu'il a fait. Merci parce qu'il nous entraîne sur le chemin de la foi, là où notre intelligence trouve ses limites. Tu nous entraînes à marcher à sa suite sur le chemin de la foi. Merci Seigneur pour la foi. Merci pour Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous et nous montrer que l'important ici-bas, c'était de te connaître, de savoir que tu nous aimais, et nous apprendre, nous aussi, à t'aimer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.